Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après plus de 4 mois de crise dite des gilets jaunes, le grand débat national voulu par Emmanuel Macron s'achève. Un résumé sera donné ce matin par l'exécutif avant les décisions qui peuvent en découler. Un résumé déjà critiqué avant même d'être donné, vous l'entendrez.
Le gouvernement français veut taxer les GAFA. Le projet de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Présentation dans ce journal.
Nous nous intéresserons aussi à la Libye, où les forces du maréchal Haftar avancent toujours vers Tripoli. Et nous essaierons de comprendre pourquoi les appels au calme de la communauté internationale ne sont pas entendu.
Et puis dans cette édition, nous irons en Israël à la veille des élections législatives. Benjamin Netanyahou brigue un cinquième mandat.
Et puis en Pologne, où plus de 85% des écoles publiques seront touchées aujourd'hui par une grève illimitée, les enseignants demandent une revalorisation salariale. Actuellement, ils touchent moins de 600 euros par mois, soit 500 euros de moins que le salaire moyen. Dans un quart d'heure, Stéphane Robert nous rejoindra pour le billet politique. Il sera question de la majorité qui organise sa propre opposition. Vous le comprendrez. L'heure de la conclusion avant les décisions. Voici venue la fin du grand débat national. À partir de 9h tout à l'heure, le gouvernement en livrera les résultats depuis Paris au Grand Palais. 2 millions de contributions ont été recensées. Seront notamment présents ce matin les ministres animateurs du débat, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon. Le Premier ministre Édouard Philippe fera ensuite un discours à midi. Un discours scruté, notamment par l'opposition de droite et de gauche qui multiplie les critiques depuis le début de cet exercice. Preuve en est en fin de semaine dernière le gouvernement qui a dû déminer face au sénateur Anne Fauquemberg.
Plusieurs sénateurs redoutent en effet le coup de communication du gouvernement. C'est pourquoi ils ont demandé cette audition en fin de semaine dernière. Le socialiste Éric Kerrouche, par exemple, qui dénonce les questionnaires en ligne de la plateforme Internet.
Pourquoi avez-vous fait le choix d'une démarche non scientifique qui donne des données chiffrées, mais peu ou pas exploitables ?
Sébastien Lecornu assume, oui c'est vrai, le grand débat n'est pas une enquête scientifique, c'est une photographie de ce qui s'est dit ces dernières semaines dans l'urgence de la crise des gilets jaunes. Et ces questionnaires en ligne n'en seront qu'un tout petit éclairage.
On accorde énormément d'importance à la matière notamment qui revient des RIL, des réunions d'initiative locale, puisque c'est là où la parole s'est transformée fondamentalement en compte-rendu qui donne des choses, me semble-t-il, très intéressantes dans l'analyse du grand débat national.
Christine Bonfanti-Dossat pour LR dénonce ensuite la faible participation, 1% des inscrits sur les listes électorales pour la plateforme, puis le centriste Philippe Bonnecarrère fait part de ses doutes sur la représentativité sociologique.
Est-ce que votre méthodologie nous permettra de savoir ou non si dans cette prise de parole, il y a celle de ceux qui ne la prennent d'habitude jamais.
Emmanuel Wargon tente d'apporter une réponse.
Là où des citoyens étaient tirés au sort, les deux tiers environ, un petit peu moins des deux tiers, 60%, ont déclaré au moment de l'entrée dans ces conférences régionales citoyennes qu'ils n'avaient pas participer aux autres modalités du grand débat.
Non, le grand débat ne va pas solutionner en l'espace de 2 mois tout le problème de l'abstentionnisme et de la crise de citoyenneté, ajoute Sébastien Lecornu, mais ce qui s'est passé est intéressant, il faut tous s'en réjouir. Les deux ministres tentent de faire passer le message, même aux plus réticents. Toute la classe politique est dans le même bateau, il faut au contraire serrer les rangs.
Sébastien Lecornu qui précise également que ce grand débat aura coûté 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est le coût de la démocratie, selon le ministre. Il souligne qu'une présidentielle coûte plus de 20 fois plus, 250 millions d'euros. Voilà pour les arguments qui n'ont pas convaincu les premiers concernés, les manifestants gilets jaunes à l'origine de la contestation et donc de ce grand débat. Ils étaient samedi 22 300 dans les rues selon le ministère de l'Intérieur, moins nombreux mais encore mobilisés. Écoutez par exemple Michel, Stéphane et Pascal interrogés à Paris ce samedi. Eux n'attendent rien de cette synthèse à venir ce matin du grand débat national.
Vous parlez de la campagne de Monsieur Macron pour les européennes, c'est ça dont vous parlez, à nos frais, 12 millions d'euros, il paraît que ça nous a coûté. Sympa.
Moi je pense qu'il va nous donner une goutte d'eau comme d'habitude et puis par derrière on va se faire avoir. Si, il va faire des petits trucs histoire de dire pour montrer, mais ça va être un petit caillou jeté dans l'eau comme on dit.
J'attends absolument rien de ce grand débat. De tout ce que j'ai pu voir ou de tout ce que j'ai pu entendre, on n'a jamais posé les vrais problèmes. Les salaires, les retraites, les impôts, de pouvoir finir mes fins de mois, d'emmener mes enfants en vacances tous les ans. Moi c'est ici que je m'exprime, c'est dans la rue, pas dans des salles ou dans des choses organisées, un peu manipulées. C'est la voix de la rue qu'il faut entendre. C'est là où sont les vraies revendications.
Jean-Michel Blanquer, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, invité des Matins de France Culture. Vous avez participé aux discussions nationales à plusieurs reprises ces deux derniers mois. Nous voulons de l'entendre très clairement. Une partie de la population n'a pas adhéré à ce grand débat national proposé par l'exécutif. La réponse sera donc forcément incomplète. Que leur répondez-vous ?
Il y a d'abord que tout est toujours incomplet en démocratie. C'est peut-être même la caractéristique de la démocratie. Elle crée de l'insatisfaction, sans reprendre la vieille formule de Churchill sur le fait que c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. L'insatisfaction fait partie de la démocratie. C'est évidemment pas la seule réponse. Par ailleurs, nous avons eu un exercice inédit de démocratie. Quand vous avez un débat qui a lieu dans la moitié des communes de France, c'est-à-dire plus de 16 000 communes l'ont fait, lorsque vous avez un débat qui implique à peu près 1 500 000 personnes, lorsque vous avez un débat où tous les thèmes sont abordés, car contrairement à ce qu'on vient d'entendre, ces sujets-là, évidemment, ont fait partie des thèmes abordés. Vous pouvez vous féliciter au contraire d'être dans un pays où il y a cette vitalité démocratique. Pas seulement parce que le gouvernement a permis que ça puisse se faire, mais surtout parce que il y a un désir politique. Nous sommes une nation politique avec du désir de participation. Ça, c'est vu. Il y a évidemment des différences de point de vue. Ça, c'est ça aussi la démocratie. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir la satisfaction à 100% de tout le monde, tout le temps. En revanche, il y a clairement la possibilité de cristalliser des thèmes et d'avoir du progrès social et du progrès de notre pays grâce à ce grand débat. Et c'est évidemment cela qu'il faut réussir maintenant.
Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Nous vous retrouvons dans une douzaine de minutes. J'ajoute que les décisions d'Emmanuel Macron suite à ce grand débat national sont attendues au plus tôt à la mi-avril. Et voilà peut-être de quoi financer les mesures d'urgence annoncées par l'exécutif pour répondre à cette mobilisation des gilets jaunes. Le projet de loi pour taxer les GAFA, de l'acronyme Google, Amazon, Facebook, Apple. Ce projet de loi sera débattu à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une façon de montrer la voie aux Européens malgré les critiques de Washington qui juge déjà le texte discriminatoire. Porté par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, ce texte devrait rapporter une somme d'argent conséquente, Stephen Goyer.
Avec 400 millions d'euros attendus sur l'année 2019, le gouvernement compte bien faire un joli coup comptable. Mais au-delà des chiffres, Bruno Le Maire en a surtout fait son cheval de bataille, un symbole pour montrer que le gouvernement français n'est pas sourd aux voix qui réclament une plus grande fermeté des pouvoirs publics face aux géants du web. Le ministre de l'Économie déplorait même récemment qu'en moyenne, les grandes entreprises du numérique paient 14 points d'impôt de moins que les autres entreprises, 9% contre 23% à l'échelle européenne. Très concrètement, cette taxe sera appliquée sur le chiffre d'affaires tiré des activités numériques des grands groupes. Une taxe à hauteur de 3% pour les entreprises dégageant dans ces secteurs plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial et plus de 25 millions en France. Sont notamment concernées les plateformes qui proposent des services de publicité ciblée à la manière de Google, Facebook ou encore Instagram, ou encore celles qui procèdent à des ventes de données. Et ce périmètre justement pose problème, notamment à l'organisation ATTAC qui déplore dans un communiqué publié hier que seule une partie minoritaire du chiffre d'affaires soit au final concerné. Apple, par exemple, tire ses revenus des ventes de téléphones et Amazon de la vente de produits en ligne. L'organisation évoque une taxe symbole. D'après ses calculs, plus des deux tiers des activités des GAFAM en France échapperont à cette nouvelle taxe.
Carlos Ghosn est officiellement révoqué après 20 ans passés à la tête de Nissan. Les actionnaires se sont réunis ce matin à Tokyo. Le nouveau patron de Renault, Jean-Dominique Senard, est nommé au conseil d'administration.
8h08 sur France Culture. La suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Les combats se poursuivent en Libye. Ils ont déjà fait plus d'une vingtaine de morts depuis jeudi.
C'est un affrontement entre deux camps, entre les deux hommes forts de la Libye qui se joue en ce moment. Le dirigeant reconnu par les Nations Unies, Fayez El-Sarraj, à la tête du gouvernement d'Union nationale. Et face à lui, le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays et qui marche vers Tripoli depuis 4 jours maintenant. L'ONU appelle au calme. Washington, Paris, Londres et Rome également. Mais rien n'y fait. Et ce n'est pas étonnant pour Jalel Archaoui, les chercheurs à l'Institut Klingendel à La Haye, spécialiste de la Libye.
Il n'y a aucune mise en garde qui est prise au sérieux en ce moment en Libye, absolument aucune. Une des raisons, c'est parce que tous ces processus des diplomatiques, les avertissements, les espèces d'annonces conjointes entre différents États, dont les États occidentaux, ça a perdu de sa crédibilité. Parce que tous ces instruments diplomatiques ont été utilisés dans un contexte assez biaisé en faveur du maréchal Haftar. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont, maintenant qu'on en a besoin, maintenant qu'on est dans une situation de crise véritable, on ne peut plus tellement les utiliser, à moins d'avoir recours à un langage encore plus explicite, chose qu'aucun État étranger, et certainement pas les États occidentaux, et certainement pas les États-Unis d'Amérique, en tout cas, ne veut faire. C'est une guerre imprévisible qui va très vite, en étant même relativement optimiste, plutôt se transformer en bourbier. Et c'est vrai que ce bourbier risque de durer beaucoup plus longtemps que tout ce que les protagonistes ont imaginé.
Et à l'instant, le gouvernement d'Union nationale évoque au moins 32 morts depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar. Malgré ces affrontements, les Nations unies comptent maintenir une conférence nationale qui est prévue la semaine prochaine dans le sud-ouest du pays. Elle visait à mettre fin à la crise. Des milliers de manifestants étaient hier encore dans les rues de Khartoum, la capitale du Soudan. Et ils demandent à l'armée de les soutenir dans leur opposition au président Omar el-Béchir. La contestation dure depuis près de 4 mois, mais elle s'est densifiée ce week-end avec des rassemblements d'une ampleur inédite. Les sondages penchent plutôt en faveur du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou en cette veille d'élection législative en Israël. Malgré l'usure du pouvoir, il y est depuis plus de 10 ans. Malgré les affaires, Benjamin Netanyahou reste le maître incontesté du Likoud face au général centriste Benny Gantz. Il mise sur la sécurité et sur son costume d'homme d'État proche de l'américain Donald Trump. Ses troupes semblent vouloir le suivre. Preuve en est avec ce reportage d'Étienne Monin au sud de Tel Aviv.
Le marché du quartier Vava Ashdod est un secteur populaire. On est contre la Méditerranée, dans une ville qui vote majoritairement pour le Likoud et qui soutient encore Benjamin Netanyahou, couramment appelé Bibi, après 10 ans consécutifs de pouvoir.
Un leader comme ça, il y en a une fois par génération. On peut remplacer tout le monde, mais quelqu'un comme Bibi, c'est irremplaçable.
Dans la rue, l'usure du pouvoir ne se fait pas sentir, le poids des affaires non plus. Benjamin Netanyahou risque 3 mises en examen en cas de réélection, mais visiblement ça ne compte pas.
Il n'y a que Bibi. Les affaires, ça ne me dérange pas. Tu penses que les autres ne font pas la même chose? Qu'ils prennent. Ils donnent beaucoup pour le pays. Ça ne me dérange pas.
Le Premier ministre est au centre de la campagne. Il se présente comme le garant de l'identité juive et de la sécurité. Ce sont les thèmes sur lesquels le Likoud attaque l'opposition, dit Moshe Zaken, qui sert de relais local.
Le message principal, c'est que notre pays n'est pas à vendre. Il y a ici un groupe de gens de gauche qui sont prêts à s'allier avec les représentants arabes, qui sont les soutiens du terrorisme. On le voit tous les jours.
La campagne se fait principalement sur Internet. Elle est dirigée par l'entourage direct du Premier ministre.
Étienne Monin, Ashdod en Israël pour France Culture. Netanyahou, l'incontournable. C'est aussi un portrait complet à retrouver en une de notre site internet franceculture.fr. Nous avons par ailleurs appris hier soir que les points d'accès à Israël à partir des territoires palestiniens occupés en Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ces points d'accès seront fermés ce soir et pendant 24 heures, le temps des élections législatives. Cette semaine sera-t-elle vraiment décisive pour le Royaume-Uni? C'est normalement vendredi que prend fin le report accordé par les 27 États membres à Theresa May pour finaliser le Brexit. La première ministre britannique, elle, veut repousser une nouvelle fois cette date butoir au 30 juin. Une réunion extraordinaire du Conseil européen est prévue mercredi, c'est-à-dire après-demain. D'ici là, par anticipation, de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur de l'automobile, vont fermer leurs sites de production outre-Manche. Pour éviter une éventuelle rupture des chaînes d'approvisionnement, elles se mettent à l'arrêt, Antoine Gignot.
4 semaines de fermeture pour l'usine d'Oxford qui produit les Mini Cooper, 2 semaines pour Rolls-Royce et des ateliers qui tournent au ralenti sur les 4 principaux sites de production de Jaguar Land Rover. Le groupe emblématique de l'automobile au Royaume-Uni a déjà fait disparaître 1500 emplois l'an dernier et vient d'annoncer un plan de 4500 suppressions de postes. Beaucoup d'ouvriers sont depuis ce matin en vacances forcées, leur salaire est maintenu, mais ils devront faire des heures supplémentaires dans les 2 années qui viennent. En arrêtant la production, les constructeurs espèrent éviter les turbulences liées à un éventuel Brexit sans accord, les retards des sous-traitants, les contrôles, les embouteillages dans les ports de Calais et Douvres. Mais quel que soit le scénario de sortie, l'impact sur la filière est déjà là. Au mois de février, Nissan a renoncé à construire son nouveau X-Trail au Royaume-Uni. Honda a pris la décision de fermer son usine de Swindon en 2022. Toutes marques confondues, les ventes de voitures sont tombées à leur plus bas niveau depuis 6 ans.
Les Britanniques doivent donc quitter l'Union européenne dans les jours ou les semaines qui viennent. Les eurodéputés conservateurs ne siégeront plus. Les populistes sont ainsi amenés à chercher plus de voix pour rester présents au Parlement européen. Pour cela, aujourd'hui, le patron de la Ligue italienne et ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, va réunir ses alliés européens à Milan. Les élections européennes sont dans 1 mois et demi et d'ici là, Radio France se mobilise à travers le mot-clé « Votre Europe » sur les réseaux sociaux. Sur France Culture, la Grande Table s'intéressera déjà ce lundi midi à la mémoire européenne. L'Europe et ses disparités encore, cela nous emmène en Pologne, où les écoles devraient pour beaucoup rester fermées aujourd'hui. Les enseignants débutent une grève illimitée à 2 jours du brevet des collèges. Ils demandent une hausse de salaire de 30%. Il faut dire que leurs salaires actuels sont très très bas. Thomas Giraudot en a rencontré à Varsovie.
Sur sa photo de profil Facebook, un point d'exclamation noir sur fond orange, symbole de la lutte des professeurs. Judeta Rudnitska enseigne l'anglais depuis 8 ans dans une école primaire de Varsovie.
J'ai entre 3 et 8 heures de cours par jour. Entre les cours, je surveille les enfants, je discute avec eux. J'ai aussi 3 cours supplémentaires pour lesquels je ne suis pas payée. Puis je rentre chez moi et je passe plusieurs heures à travailler. Je réponds aux mails de tous les parents. Je prépare les prochains cours, je corrige les contrôles, les évaluations. Voilà tout. Je pense que je travaille bien plus que 8 heures par jour.
Judeta gagne moins de 600 euros par mois. C'est un petit peu plus que la moyenne des enseignants, mais très loin du salaire moyen en Pologne, proche de 1100 euros.
Ce n'est pas un salaire normal. Aujourd'hui, je suis moins bien payée que mes amis qui travaillent au supermarché. Comparé à des pays d'Europe de l'Ouest, c'est vraiment ridicule ce que l'on gagne et ce que l'on gagnera.
Car même si les enseignants obtiennent l'augmentation de 30% réclamée par leur principal syndicat, leur revenu restera en dessous du salaire moyen polonais. Katarzyna Lenarczyk enseigne l'anglais à des lycéens.
Moi, par exemple, j'ai un master et 2 doctorats. Eh bien, je gagne 550 euros plus 200 euros d'heures supplémentaires. Avant d'être professeur, j'étais ingénieur du son. Dans ce métier, on gagne aujourd'hui 3 fois plus que moi.
Depuis la rentrée, Katarzyna a aussi 36 heures de cours par semaine. C'est 18 heures normalement, car en raison des bas salaires, la Pologne connaît une pénurie de professeurs. Les enseignants actuels ont par conséquent plus d'élèves et de classes.
C'était un reportage de Thomas Giraudot à Varsovie pour France Culture. L'école en France, cette fois avec ses problématiques, nous en discuterons avec le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, invité des matins de France Culture, Jean-Michel Blanquer. À vos côtés, Guillaume Erner, ce sera dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous donner la météo de ce lundi qui commence. Le temps sera marqué par un ciel gris, nuageux sur tout le pays, avec souvent de la pluie selon Météo France. Il fait 9 degrés ce matin à Besançon, 11 à Lille, Nantes et Lyon, 12 degrés en région parisienne. Et 14 ce matin près de la Méditerranée.